ce soit une étude assez difficile, en tout cas difficile pour moi, puisqu'il s'agit d'un exposé sur l'introduction à la pensée juive, et vous comprenez bien que il y a là une question très difficile, parce que ça implique un cercle vicieux. En général, un exposé d'introduction au contenu d'une pensée spécifique, lorsqu'il veut être cohérent, doit se faire après l'étude de cette pensée. Et c'est, si vous voulez, le drame de toutes les préfaces. Et nous allons avoir dans les jours qui suivent, dans ce séminaire d'études, une étude de texte talmudique demain sur le problème du mariage. C'est-à-dire, donc, nous essaierons à travers l'étude talmudique de dégager un terme bien concret, bien précis, qui serait l'optique de la pensée juive traditionnelle sur le problème du mariage. Bien entendu, on n'arrivera pas à épuiser le sujet en une séance. Ça fait 6000 ans que les hommes et les femmes se marient et c'est pas encore fini. Mais c'est pour donner une illustration d'un certain nombre de méthodes que j'indiquerai déjà ce soir, c'est-à-dire du fait qu'il s'agit d'une pensée qui n'a pas seulement des perspectives, une forme, une spécificité dans la forme ou dans le style, mais qui possède des contenus propres de sagesse, des contenus propres de connaissance, et que l'on ne peut effectivement aborder qu'à travers l'étude directe de ces contenus de connaissance. Et puis mercredi soir, nous aurons une étude d'allure plutôt théologique. Nous étudierons la conception de Maïmonide sur la prophétie. Ce sera un autre secteur de cet échantillonnage, si j'ose dire, des contenus de la pensée juive, parmi d'autres, bien entendu. Mais ce soir, je voudrais que nous ayons une réflexion en commun sur, on peut dire cela peut-être de façon un peu exagérée, mais enfin, l'ensemble des questions de préalables qui se posent à l'introduction à la pensée juive. Et ces questions sont de plusieurs sortes, des questions de forme, des questions de méthode, des questions de contenu. Et bien entendu, il s'agira, puisque c'est un contact préalable à toute étude proprement dite, et la difficulté pour moi, c'est que vous êtes bien évidemment de niveaux d'approche de la pensée juive très différents, et j'essaierai de parler surtout pour ceux qui seraient, le cas échéant, candidat à l'initiation radicale, c'est-à-dire avant l'alphabet. Et c'est effectivement très difficile. Enfin, j'espère que chacun pourra en retrouver ce qui lui convient, et nous aurons d'ailleurs, après l'exposé, à en débattre et à mettre en commun, voire quand même, et à mettre en commun, le cas échéant, des mises au point d'expérience ou d'analyse que chacun aurait faites pour lui-même. C'est-à-dire que ça ne va être ni spécialement un cours, ni spécialement une conférence, mais je voudrais énumérer un certain nombre de principes, un certain nombre de postulats qui résultent de l'expérience de l'étude de la pensée juive et qui, chacun d'entre eux, pose aussi un problème idéologique, pose aussi un problème de fond, et nous avons donc, je suppose, énormément de matière à réflexion à ce sujet. J'ai choisi quand même un fil conducteur à ces réflexions. Ce serait d'abord, et il me semble que c'est la question préalable, de se demander s'il existe vraiment, et théoriquement et en fait, et en droit et en fait, un caractère spécifique de la pensée juive. Et nous réfléchirons d'abord à cette première question. Et s'il y a un caractère spécifique de la pensée juive, s'il y a une spécificité de l'identité juive que cette pensée juive implique, alors on ne peut le caractériser sous forme de formule qu'en se posant les deux questions suivantes. D'abord, quelle est la question propre à la pensée juive, s'il y en a une, de spécificité, je veux dire. Quelle est la préoccupation principale spécifique de nouveau, quelle est la perplexité caractéristique de la pensée juive, ce qui la situerait à l'intérieur de l'ensemble de la pensée en général, ou de la pensée universelle, comme on dit souvent. Donc, premièrement, quelle est la question fondamentale, celle qui se répète toujours à travers toutes les études, à travers tous les secteurs de l'étude, s'il y a une pensée juive en soi, eh bien, elle s'exprime, elle apparaît, dans une question qui la préoccupe en particulier et ce qui typerait, si j'ose dire, ce que l'on appellera la culture juive. Et bien entendu aussi, quelle est la réponse qu'elle donne à cette question. Voilà donc, si vous voulez, le premier thème de réflexion. Et je voudrais tout de suite anticiper sur les analyses que nous aurons en vous donnant, sous forme de témoignage mais raccourci, ce qui semble apparaître à l'expérience, à travers l'information que nous avons des contenus de pensée juive déjà élaborés, tels qu'ils se sont déposés dans cette immense littérature qu'est la littérature propre à la culture juive. Et il y a déjà, voyez-vous, une autre question qui se pose, il faut distinguer entre la littérature juive, même lorsque ses contenus traitent des problèmes spécifiques de la pensée juive et la pensée juive proprement dite. La pensée juive proprement dite, c'est l'ensemble de la mentalité et des catégories qu'emploie cette mentalité spécifique à l'identité juive. La littérature juive, à tous les niveaux, eh bien, c'est le résultat d'une expression, d'une certaine réflexion à partir de la mentalité de pensée juive sur tel ou tel problème, sur telle ou telle donnée, qu'il soit historique, sociologique, philosophique, métaphysique, théologique, etc. Bien entendu, c'est dans la littérature juive, dans tous ces secteurs, que nous atteindrons le contenu déjà élaboré du message qu'aurait à transmettre cette mentalité spécifique de pensée qui s'appellerait la pensée juive. Mais il y a quand même une différence de nature entre la littérature où se dépose ce témoignage et d'autre part la pensée juive proprement dite, c'est-à-dire le point de vue avec lequel une certaine manière d'être homme a abordé les problèmes qui se posent à la pensée humaine. Et nous aurons aussi à revenir sur ce point tout à l'heure. Mais il semble, et nous partirons de ce postulat, bien entendu comme tous les postulats peuvent être discutés, mais nous discuterons ça dans le débat tout à l'heure, il semble que l'on pourrait récapituler l'intuition fondamentale de cette spécificité de la préoccupation juive quant au problème de la pensée, quant à tous les problèmes qui se posent à la pensée humaine, de la manière suivante. Il y a un cas particulier, et cela résulterait de tous les secteurs de la littérature juive spécifique. Il y a un cas particulier dans la pensée humaine, celui de la pensée juive, et qui aurait pour postulat de méthode fondamentale le fait qu'une certaine prise de conscience du problème moral est préalable à toute réflexion théorique. C'est-à-dire que quelles que soient les définitions que la pensée juive donne des problèmes qu'elle traite, tant lorsqu'elle pose les questions que lorsqu'elle formule les réponses, eh bien, il y a une pré-culture à sa culture philosophique, si vous voulez, ou avant toute analyse théorique, avant toute définition par postulat intellectuel, il y a une prise de conscience de l'identité morale de l'homme qui a été spécifique. Et par conséquent, cela nous renvoie bien évidemment à un problème de spécificité d'identité avant le problème même de la spécificité des façons de penser. Nous sommes habitués dans la culture générale à aborder ce problème de la manière inverse, qu'il y aurait d'abord une suprématie préalable de la raison comme telle, de la pensée comme telle, théorique, intellectuelle, désincarnée de l'engagement d'identité, et ensuite seulement cela s'applique par comme conséquence de tel ou raisonnement, de tel ou tel raisonnement de la pensée théorique, cela s'appliquerait à telle ou telle communauté de pensée. Mais il semble que ce qui ressort de l'ensemble des textes qui sont le témoignage dans notre littérature de ce qu'a été la spécificité du point de vue juif sur le problème du discours sur l'homme, sur le problème de la pensée, que nous devons, pour aborder notre domaine, inverser ce postulat. Il y a d'abord une manière de connaître l'identité humaine par rapport au problème moral qui est préalable à toute formulation, à toute expression de postulat théorique intellectuel. Je veux dire que l'ordre des évidences pour la pensée juive apparaît comme second par rapport à une expérience spirituelle antérieure qui est plus de l'ordre moral que de l'ordre philosophique. Ce sera, vous l'avez reconnu je pense, ceux qui sont habitués un peu à ces analyses, le postulat général de ce que je voudrais essayer de vous communiquer en énumérant les différents problèmes qui se posent à notre sujet. Ça signifie donc, en tout cas, que la pensée juive se présente comme un phénomène sui generis. C'est-à-dire, ce n'est pas le résultat d'une recherche, ce n'est pas la conclusion d'un cheminement intellectuel, mais que la pensée juive apparaît comme une manière spécifique de se poser les problèmes de l'homme de façon sui generis et non pas comme conséquence d'évidence de la raison. Je n'ai pas dit d'évidence rationnelle, c'est un autre problème, mais comme conséquence d'évidence de la pensée en général. Enfin, c'est pour dire de nouveau le même postulat, il y a d'abord à élucider une certaine connaissance de soi que l'homme juif a de lui-même, la manière dont il prend conscience dans les catégories morales de ce qu'est l'identité humaine, et ensuite seulement en découle des évidences d'ordre intellectuel, ceci pour le premier point. Alors immédiatement se pose un deuxième problème, c'est un problème de communication. C'est-à-dire, si la pensée juive est spécifique, Et si elle procède d'une identité spécifique, à laquelle, comme nous le verrons de nouveau, on peut adhérer, on peut pas seulement communier, mais on peut s'y intégrer. Mais si, dans tous les cas, les contenus de pensée juive et ses méthodes procèdent d'une identité spécifique, sui generis, alors un problème de communication se pose. Comment se fait-il qu'elle puisse être communiquée? Et c'est là que se pose le problème du langage spécifique à la pensée juive. Bien entendu, nous arriverons à établir que, en fin de compte, la traduction est possible. Et que les contenus de signification peuvent, à la limite, être communiqués à d'autres manières d'être homme. Et à la limite, cette pensée juive spécifique a sa manière de comprendre l'universel. Et si elle se donne comme phénomène sui generis de l'homme, il est inévitable qu'elle dispose, elle aussi, d'une perspective de l'universel. Mais il y a un problème de communication qui se pose en ce sens qu'au-delà même de la traduction, il est bien évident que les contenus de la pensée juive se pense d'abord en hébreu, et que le langage de formulation, d'émission même, de ses propres intuitions et de ses propres connaissances, devront d'abord passer par une prise de conscience des règles de ce langage d'émission de la vérité propre à l'identité juive, c'est-à-dire l'hébreu tel qu'en parlent les textes traditionnels depuis l'origine, c'est-à-dire l'hébreu comme la Shona Kodesh. De la même manière, il y avait déjà le postulat d'une identité du Am Kadosh, et je n'ai pas encore traduit, il y a le postulat d'un langage, de la communication de ce que cette identité dit elle-même, c'est ce que nous appelons en hébreu le Lashon HaKodesh. Et on est habitué à traduire ces termes par peuple saint, ou langage sacré, ou langue sacrée, mais je crois qu'il faut retenir et revenir immédiatement à l'étymologie, cela veut dire plus consacré dans le problème qui se pose à nous. C'est-à-dire le langage approprié aux choses dont on parle. L'idée que Israël, tel qu'en parle sa propre tradition, est dit en hébreu « Am Kadosh », peuple saint, ça ne signifie pas seulement, bien que cela puisse signifier aussi, ça ne signifie pas d'abord qu'il disposerait d'une certaine essence de la sainteté, ça signifie d'abord que son identité se définit par une certaine authenticité propre, et que par conséquent il y a une consécration dans la relation de l'identité du juif à lui-même qui s'exprime par ce concept ou cette expression de Am Kadosh. Le Am Kadosh, c'est l'ensemble des individus qui sont consacrés à ce type d'identité qui se nomme Israël dans les contenus de la pensée juive. Et de la même manière, deuxièmement, le langage d'expression de cette identité sera dit Lashon HaKodesh, en cela qu'il est le seul langage authentique convenable à ce dont il est parlé lorsque l'identité juive dit ce qu'elle est d'elle-même et depuis l'origine, c'est-à-dire d'abord au stade hébraïque et ensuite au stade de l'histoire du judaïsme. Ce sera un deuxième problème. Premièrement, il y a un préalable d'identité, mais deuxièmement, puisqu'il y a un problème de communication, il y a aussi un préalable de langage. Je vous citerai très rapidement, pour éclairer ce point déjà, le Midrash qui parle de la révélation de la Torah au temps de la sortie d'Égypte, sur le mont Sinaï, et qui dit que simultanément, la Torah a été révélée en Lashon HaKodesh pour Israël, mais en même temps, dans le langage des 70 nations, et ceci pour indiquer qu'effectivement, il y a une perspective de communication à l'échelle de l'universel qui procède de cette identité dont il est parlé. Il n'en reste pas moins qu'il y a une différence d'efficacité entre les contenus de cette sagesse lorsqu'ils sont connus de façon sui generis, avec le langage approprié, c'est-à-dire dans le Lashon HaKodesh, et nous aurons de nouveau à retrouver tous ces problèmes de l'expression par le langage ou de la communication par le langage. Les règles de grammaire ne sont qu'apparemment des règles de grammaire. En réalité, elles expriment des catégories de la pensée qui se laissent deviner à travers les règles de la grammaire elle-même. Et qu'il y a donc une différence de nature, et pas seulement de degré, entre la connaissance de ce qui est communiqué par l'identité juive à travers l'hébreu, et cette même connaissance, une fois traduite dans une autre catégorie de communication, c'est-à-dire dans un autre langage. Et puis, il y a un troisième point qui apparaît à ce moment-là, après celui de l'identité spécifique, préalable au contenu intellectuel, après celui du langage, qui, parce qu'il exprime d'abord l'identité, est seul apte à exprimer les contenus, il y a le problème, donc après ce problème de la communication, il y a le problème des méthodes de la communication. Et c'est là qu'il faut distinguer, historiquement, entre le stade de la pensée juive et le stade de la pensée hébraïque, qui lui est antérieur. La pensée juive, c'est dans tous les cas une réflexion seconde à travers la pensée hébraïque. C'est-à-dire qu'il faut d'abord récupérer la communication avec l'émission en direct, si j'ose dire, c'est-à-dire ce que la pensée hébraïque a dit d'elle-même, pour pouvoir ensuite comprendre ce que les juifs ont dit d'eux-mêmes à travers la pensée hébraïque. Je veux dire que la pensée juive, en prenant les termes dans leur sens simple, dans leur sens strict, est inévitablement seconde par rapport à la pensée hébraïque. C'est déjà une pensée qui parle d'eux. En disant ce qu'elle est, elle parle de ce qu'étaient préalablement les hébreux. Simplement pour signaler le fait que nous nous trouvons devant deux méthodes possibles. D'une part, du point de vue de l'information, s'informer dans les livres que les juifs ont écrits à propos de la pensée hébraïque. L'information par la lecture des livres. Et puis deuxièmement, la deuxième méthode, l'initiation directe de maître à disciple. Et c'est un problème important, comme nous le verrons tout à l'heure dans les études de détail, parce que lorsque nous nous renseignons dans les contenus des livres, inévitablement nous sommes renvoyés à un autre degré de l'introduction à la pensée juive ou de l'initiation à la pensée juive, celui de la tradition orale. C'est-à-dire qu'il n'existe aucun livre authentique de la pensée juive qui ne se réfère par postulat même à une autre méthode de communication que la lecture du livre ou que l'étude d'un livre, celui de l'initiation orale. Parce qu'il s'agit effectivement d'un problème de communication et parce qu'il s'agit d'un problème de décryptage de la pensée hébraïque à travers ce qu'en dit la culture juive elle-même. Eh bien, au bénéfice, si vous voulez, de ces trois premières remarques, nous aurons donc à nous poser la question suivante. Quelle est la question spécifique à la pensée juive et quelle est la réponse qu'elle a l'habitude d'y donner? Et à ce propos, il faut employer simultanément trois points de vue différents qui en général sont, il me semble, mélangés. Et par conséquent, se gênent et se contrarient l'un l'autre. Je vais essayer d'être un peu plus précis immédiatement. Inévitablement, un problème de cet ordre, dans le stade historique où nous nous trouvons par rapport à cette tradition de pensée dont il a parlé, requiert trois points de vue de méthode différents. Mais l'expérience nous montre que si la pensée juive reste dans ses contenus, quelles que soient les études, surtout dans les siècles derniers, qui ont essayé d'en rendre compte, c'est parce qu'on mélange habituellement ces trois points de vue et qui sont, premièrement, un point de vue d'ordre philosophique en général, d'ordre culturel en général. Tout ce qu'il faut savoir pour comprendre comment une question se pose. Chaque fois qu'une question se pose, et en particulier lorsqu'une question est posée à une tradition, eh bien, il y a toute une sorte de pré-culture préalable qui tient compte de l'ensemble de l'expérience culturelle de celui qui se pose la question ou de celui à qui la question est posée. Le sens même de la question impose d'abord un premier déchiffrage et que je dirais d'ordre philosophique. C'est une réflexion pour arriver à comprendre de quoi l'on parle lorsque l'on va se poser même une question. C'est un premier point de vue que je voudrais isoler pour lui-même. Il y a un deuxième point de vue qui est un point de vue exégétique. Il s'agit d'essayer de comprendre ce que exactement disent les témoignages de la pensée juive, c'est-à-dire les livres qui en parlent. Et là, c'est un tout autre secteur de méthode et de la réflexion et de l'étude, celui de l'exégèse. Puisque les contenus de la pensée juive nous sont déjà donnés sous forme de discours élaborés par écrit. Et il s'agit des livres, de la littérature dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. Et là, il y a un deuxième point de vue, une deuxième préoccupation de l'abord des contenus de la pensée juive, qui est celui de l'exégèse, c'est-à-dire d'essayer de comprendre vraiment ce qui est dit dans ce que l'on lit. Que ce soit les livres juifs proprement dits, c'est-à-dire les livres traditionnels, que ce soit les livres qui parlent du judaïsme au second degré. Il y a un deuxième point de vue qui est le point de vue de l'exégèse. Et puis il y a un troisième point de vue qui est le point de vue de l'étude ou de la compréhension. À partir du moment où l'on a déjà compris ce que soi-même, ce que le « je » qui pense chaque fois qu'il pose une question, se pose une question. À partir du moment où on a déjà compris ce que soi-même l'on veut dire dans la question que l'on pose, c'était le premier point de vue d'approche, le point de vue philosophique dans la terminologie que j'ai employée. Et puis deuxièmement, après avoir compris exactement, et tout ceci réclame, bien entendu, des études longues, difficiles, dans chacun de ces secteurs. Deuxièmement, après avoir compris exactement ce que les textes qui sont le témoignage des questions et des réponses donnée à l'homme qui interroge dise vraiment, alors apparaît un troisième point de vue de préoccupation qui est celui de la compréhension. C'est-à-dire, et qu'est-ce que cela signifie rapporté à la question de que l'homme se pose à lui-même dans les préoccupations de la pensée, en particulier dans les questions propres à la pensée juive pour elle-même. Prenons donc un point de vue de culture générale. Et il s'agit là de mettre au point le terrain à partir duquel l'on formule la question. Chaque fois que l'on se pose une question, qu'on la pose à la tradition juive elle-même. Et il faut tenir compte de toute une mise au point de la signification même de la préhistoire culturelle à cette question. Chacun, au moment où il se pose un problème, ou au moment où ce problème lui est posé, au moment où quelqu'un d'autre le lui pose, et ça ne signifie pas forcément exactement la même chose, a déjà une certaine expérience de la vie spirituelle, de la vie intellectuelle, dont il faut tenir compte, dont il faut élaborer les attendus pour que la question soit clairement posée. Et cette première approche est d'ordre philosophique en général. Je reviendrai sur ces définitions tout à l'heure. Et puis deuxièmement, lorsqu'on se réfère au témoignage que les siècles nous ont déjà donné de ce que les Juifs ont dit d'eux-mêmes, à partir des Hébreux, et puis ensuite au niveau de l'étape du judaïsme proprement dit, c'était le problème d'exégèse. Il y a toute une série d'études, toute une série de sciences qui ont pour objectif de restituer la vérité de ce que le texte a dit, quel que soit le texte auquel on parle, duquel on parle, que ce soit le texte de la Bible, que ce soit le texte du Talmud, de celui des Midrashim, de celui des écrits de la Kabbalah, ou des commentateurs postérieurs, ou des témoignages de réaction de la pensée juive sur elle-même, qui font l'ensemble de cette vaste littérature où tous ces témoignages se sont posés. Après avoir compris dans quels attendus on se pose les questions que l'on se pose, il faut aussi comprendre très exactement ce qui est dit dans les références que l'on cite. Et ça, c'est là un tout autre secteur de l'introduction à la pensée juive. Mais ensuite commence le véritable travail, qui est celui que nous nommons en hébreu le limoud. Le limoud, c'est-à-dire l'étude, la compréhension, de telle sorte de comprendre vraiment ce que tout cela signifie rapporté à la question de la destinée de l'homme. Et là, il s'agit toujours d'une étude en commun. C'est-à-dire, lorsque les contenus propres au premier point de vue, puis au second point de vue, philosophique et exégétique, ont été élaborés, formulés, alors apparaît une certaine autorité où s'exprime l'identité sui generis de la pensée juive pour elle-même, qui doit formuler le résultat de l'étude, de telle sorte d'en donner la compréhension autorisée. Et c'est ce troisième niveau qui est celui du limoud, de l'étude, c'est-à-dire de la mise en commun de toutes les expériences préalables et d'enquêtes philosophiques et exégétiques, de telle sorte d'arriver à la formule qui récapitule ce que, ensemble, tous les hommes juifs qui s'occupent de ce problème comprennent et qui a chance de pouvoir être dit contenu authentique de la pensée juive comme telle, et non pas seulement de l'opinion de tel ou tel juif de façon spécifique, à l'échelle individuelle. Vous voyez donc l'ampleur, la complexité et la difficulté du problème. J'ai essayé un peu de le schématiser en introduction. Jusqu'à présent, semble-t-il, et ça continuera longtemps, parce que notre société ne sort à peine de la clandestinité de l'exil, et il faudra le temps de se réorganiser de telle sorte de pouvoir disposer pour notre temps d'une autorité, enfin d'une institution, si vous voulez, de formulation de l'authenticité des contenus. Et jusqu'à présent, je disais donc, ces trois points de vue ont toujours pratiquement été mélangés. Et ce qui rend nos études difficiles, c'est que se recoupent de façon arbitraire des préoccupations qui ressortent de ces trois points de vue qui, en droit, doivent être trois méthodes qui doivent être distinguées de telle sorte que les choses soient claires. Lorsque on est occupé à une approche de la pensée juive du point de vue philosophique, c'est une chose. Du point de vue exégétique, c'est une toute autre chose, c'est un tout autre monde. Et du point de vue de la compréhension des significations, c'est un troisième monde. Les trois sont indispensables, mais il faut savoir les distinguer de telle sorte de clarifier le problème de cette approche. Et la difficulté est encore compliquée par le fait que nous devons tenir compte non seulement du point de vue de ce que l'identité juive dit d'elle-même, dans toute cette complexité, mais aussi du point de vue de ceux qui, bien que faisant partie de cette identité juive, n'adhèrent pas à ce que l'identité juive dit elle-même, c'est-à-dire à la pensée juive spécifique et authentique, et nous devons aussi tenir compte du point de vue de ce que les hommes en dehors d'Israël ont pensé des contenus de la pensée d'Israël. Et là aussi, à cet autre niveau, il y a une espèce de brouillage, une espèce de chaos, de tohu wabohu qui handicape l'introduction, l'initiation à la pensée juive. Alors, essayons de garder en mémoire toutes ces questions de postulat, si vous voulez, que je vais très brièvement de nouveau vous rappeler, sans les analyser, mais il faut que nous les ayons en mémoire. La question principale, c'est d'arriver à comprendre quelle est justement la question spécifique que se pose l'âme juive ou la conscience juive parmi tous les autres hommes, et ce qui fonderait l'idée qu'il y a une pensée juive sui generis. Tant que nous n'avons pas atteint cette question, nous ne savons pas de quoi nous parlons. Nous parlions à la rigueur de la pensée humaine à l'indice juif. Mais ça, c'est de la culture, ce n'est pas de la pensée, ce n'est pas exactement la même chose. Est-ce que ce n'est pas trop compliqué? Vous suivez? Donc. Et puis, deuxièmement, la réponse donnée à cette question. Et je vous disais que le thème général qui va apparaître, c'est qu'il y a une connaissance des attendus du problème moral, une manière de connaître le problème moral qui est préalable à l'ordre des évidences propres, intellectuelles proprement dites, et que c'est là que nous atteindrons le caractère autre de la pensée juive pour elle-même. Je crois qu'on pourrait dire très rapidement, on retrouvera ça dans les conclusions, que lorsque l'on ne perçoit pas ce phénomène, que c'est au nom d'une certaine manière de comprendre le problème moral qu'est dit, que sont dites ou que sont reproduites ou exprimées ou expliquées telles ou telles intuitions d'ordre intellectuel, d'ordre donc philosophique, métaphysique, spirituel, théologique, à la limite psychologique, sociologique, tout ce qui fait les sciences de l'homme, alors on a immédiatement l'impression qu'il ne s'agit pas d'un contenu de pensée juive authentique, je veux dire traditionnel, c'est-à-dire authentique. Si ce préalable n'apparaît pas, alors il ne s'agit pas de la pensée juive, il s'agit, à la limite ou à la rigueur, de la pensée des juifs ou de la pensée de tel ou tel homme sur les problèmes dont parle la pensée juive. Est-ce que mon vocabulaire n'est pas trop compliqué, n'est pas trop technique? Tout va bien? Donc. Et puis, il y a donc ce problème de communication, c'est-à-dire de vérifier à chaque pas de la réflexion, à chaque pas de l'expression aussi, si ce qui est dit dans tel ou tel langage, dans telle ou telle langue, dans tel ou tel langage, soit langue de telle ou telle nation, soit langage de telle ou telle école, correspond vraiment aux catégories de la pensée hébraïque en tant que véhicule de communication, c'est-à-dire en tant que la Shona Kodesh, comme nous disons traditionnellement. Et puis d'autre part, de savoir distinguer parmi les livres dont on se sert comme référence, les livres qui sont les livres juifs, c'est-à-dire les livres où s'exprime cette pensée ainsi définie, et puis les livres sur le judaïsme, qui sont d'une toute autre sorte. Et là aussi, parfois, ça se mêle. Et en fin de compte, surtout, de prendre garde, de distinguer les problèmes de réflexion philosophique, qui sont toujours des hypothèses d'approche, de contenu de sagesse, et jamais des contenus de certitude. D'autre part, les travaux d'exégèse, qui ont pour objet de restituer dans la mentalité de l'époque où nous vivons ce qui a été dit, c'est-à-dire écrit, dans les époques précédentes. Et puis, troisièmement, le point de vue de la compréhension, c'est-à-dire celui de la formulation des contenus de vérité qui ont fait l'unanimité, mais c'est le cas, mais en tout cas qui ont fait le consensus des hommes de l'identité juive sui generis. Eh bien, nous allons essayer d'éclairer un peu ces problèmes en prenant pour appui trois notions qui classiquement sont présentées comme spécifiques de la pensée juive pour éclairer d'abord la question de départ. Quelle est la question essentielle à cette pensée juive et la réponse qu'elle y donne? Et d'ailleurs, nous allons travailler ensemble pour essayer de la formuler. Et puis, pour essayer, si vous voulez, d'enrichir, en tout cas, d'illustrer les différents points de méthode que je viens d'énumérer. Ces notions, on vous les a déjà indiquées dans les textes, dans l'intitulé du séminaire, seront la notion de la création, la notion de révélation et la notion de rédemption. Avant même de les définir, je voudrais dire que là aussi apparaît un postulat commun. Pour la tradition de pensée juive, ces notions ne font pas partie constitutivement de la pensée humaine. C'est-à-dire que si elles n'étaient pas reçues par information venue de l'extérieur de la pensée humaine, elle ne serait ni connue, ni comprise. Sinon, à la limite, sous forme d'hypothèse géniale, parce que hypothèse, il peut y avoir toujours. Mais en tant que donnée de pensée, en tant que catégorie de pensée, elle se présente comme n'étant pas constitutive de la pensée humaine. Et par conséquent, pas non plus de la pensée juive définie comme pensée d'homme. Et il faut donc comprendre, au niveau du problème de communication, comment la pensée juive se trouve à être dotée de façon spécifique de ces notions particulières, puisqu'elle se présente par rapport à l'exégèse que nos propres textes nous en donnent, comme n'étant pas et ne pouvant pas être constitutive de la pensée humaine. Je vais essayer de le démontrer d'ailleurs tout à l'heure. Il y a là un terme extrêmement important qui apparaît. Nous sommes tellement familiers et habitués à des notions de ce genre, il y a aussi tout un univers d'autres notions qui se groupent, qui font constellation autour de ces notions centrales, et qui sont aussi dans ce cas. Mais nous sommes tellement habitués à ces catégories que nous ne prenons pas garde à ce fait que, quelle que soit l'habitude que nous en avons, quelle que soit l'imprégnation culturelles que nous en avons, elles sont, dans leur origine, non humaines. Je veux dire qu'elles ne peuvent pas faire partie d'une pensée humaine en dehors d'une certaine révélation. La notion de révélation elle-même étant dans ce cas. Je veux dire, elles apparaissent comme impensables pour la pensée humaine livrée à ses propres forces. Et c'est là que nous atteignons, effectivement, cette perspective d'un caractère spécifique de la pensée juive, s'il y en a un, il réside là. C'est qu'elle manie des instruments d'approche de la vérité qui, à la racine, originellement, ne font pas partie de l'appareillage conceptuel de la pensée humaine telle qu'elle est connue à l'échelle universelle. Bien que nous pouvons trouver, non seulement chez les juifs eux-mêmes qui n'adhèrent pas à cette définition que je viens de donner, et puis chez les non-juifs qui ont été informés par la diffusion de la culture biblique qui a duré des siècles, de l'emploi de ces catégories, bien que nous les trouvons maniées souvent, et surtout dans le monde contemporain, comme étant des notions, des concepts qui, finalement, à travers telle ou telle option de foi, font partie d'une pensée humaine, celle des juifs, la pensée juive à l'origine les a présentées comme n'étant pas constitutive de la pensée humaine. Et c'est pourquoi, habituellement, on les présente comme des actes de foi. Alors, si vous voulez, avant même d'aborder l'analyse de ces contenus, nous allons réfléchir à ce point de méthode. Cela aussi est une des questions qui gêne l'étude des contenus de la pensée juive, puisque pour certains, les notions fondamentales apparaissent comme étant rationnelles, à condition d'avoir été informées, à condition d'avoir suffisamment étudié pour les comprendre. Pour d'autres, elles apparaissent catégoriquement comme des actes de foi, mais avec un sens beaucoup plus religieux que méthodologique, qu'intellectuel. Alors je crois que ça vaut la peine d'y réfléchir. Et nous allons commencer immédiatement par une réflexion sur la première de ces notions, celle de création. Je voudrais essayer d'établir que tout serait faussé dans l'approche des contenus dont nous parlons si nous ne tenons pas compte de cette règle, c'est que, a priori, l'hébreu sait, et le juif donc à travers lui, qu'une telle notion ne peut pas faire partie de la pensée humaine dans le sens de la réflexion immanente, dans le sens de l'homme réfléchissant sur son destin et découvrant dans son propre fond intellectuel et spirituel, dans sa vie intérieure, les instruments d'approche du problème, de telle sorte d'essayer de comprendre ce qui se passe dans la découverte de soi. Eh bien, et c'est d'autant plus aisé pour cette notion de création. C'est par privilège une notion qui ne peut pas faire partie de la pensée humaine, tout simplement en tant que telle, est-ce qualité, tout simplement déjà parce que la pensée est incapable de penser sa propre création. On ne peut pas demander à la pensée humaine d'admettre comme constitutive d'elle-même une notion qui la nierait. Et en effet, lorsque l'on se renseigne chez tous les philosophes, chez tous les penseurs, en dehors de l'expérience spécifique de la pensée juive, chez tous les penseurs de l'humanité, on s'aperçoit qu'il y a un postulat implicite chez eux, c'est que la pensée qui pense le monde, la pensée qui formule le discours sur l'homme dans le monde, puisque c'est cela l'objet de la préoccupation, quel est le sens de la destinée humaine, eh bien que la pensée qui pense le monde et qui formule le discours sur le monde ne peut pas se connaître comme créée. qu'elle est, d'un certain point de vue, transcendante au monde dont elle parle, à l'objet dont elle parle, qu'elle est d'un certain point de vue extérieure à lui. Que par postulat, que par définition, la pensée qui pense le monde se pense, elle, quel que soit le discours, comme incréé. Et par conséquent, elle ne peut pas admettre l'idée de la création, puisque cela impliquerait qu'elle soit elle-même créée. Il y aurait là une impossibilité pour la pensée humaine elle-même. Et si par conséquent, nous trouvons comme, et ce n'est pas par hasard que nous trouvons cette notion comme première du discours de la Bible, du discours biblique, qui se définit comme discours sur l'homme, comme nous le verrons tout à l'heure, et ce n'est pas par hasard que c'est la première notion que nous allons rencontrer, celle de la création. Et donc, si nous voulons prendre au sérieux la cohérence de la pensée juive, il faut d'abord se demander de quelle pensée procède cette notion de la création, puisqu'elle ne procède pas de la pensée humaine. Et vous voyez que, très rapidement, et ne croyez pas qu'il s'agissait là d'une espèce de stratégie pédagogique, mais très, très rapidement, nous sommes acculés à la question suivante. Si la pensée juive ne traite pas, lorsqu'elle traite d'elle-même, d'une pensée qui lui a été révélée de l'extérieur de l'identité humaine, elle est prise dans un cercle d'incohérence. Nous serions pris dans une espèce de sophie. Il ne peut pas y avoir de pensée juive authentique qui n'admette donc ce premier postulat que un certain nombre de notions, dont celle de la création, lui ont été révélées du dehors de la nature humaine. Autrement, il s'agirait d'une espèce de jeu gratuit de la pensée de qui que ce soit, traitant, parlant des contenus de la pensée juive, mais ne parlant pas les contenus de la pensée juive. Est-ce que c'est suffisamment clair? C'est-à-dire d'une pensée humaine dissertant sur ce que les Juifs avaient dit, mais en se réservant le droit d'adhérer ou de ne pas adhérer à la cohérence des notions employées. Or, dès que l'on emploie une notion comme celle de la création, on s'aperçoit que l'on est littéralement acculé à cette question de méthode. Si la pensée juive se pense au sérieux, alors, ou bien elle admet que la notion de création, qui ne fait pas partie de la pensée humaine, lui a été révélée de l'extérieur de sa propre nature, ou bien elle feint de penser d'elle-même, de parler de ce qu'elle pense elle-même, elle parle déjà d'un point de vue extérieur de la pensée juive, sui generis et ex qualité. Et en effet, comme je vous disais tout à l'heure, et je prendrai, c'est le postulat commun à toutes les réflexions philosophiques, que cette notion de création ne sera admise par la pensée humaine que comme manière de parler. Si elle est prise au sérieux, cela voulait dire qu'à un certain moment de l'éternité, donc, la pensée humaine elle-même n'existait pas, que la pensée a été créée, cela nierait la souveraineté de principe que la pensée humaine se donne pour faire le discours sur la vérité ou le discours sur le monde. Et par conséquent, dès qu'un homme, et c'est en cela qu'il est juif, dès qu'un homme lit le discours de la Bible en y adhérant, le discours de la pensée hébraïque en y adhérant, eh bien, il se caractérise comme étant dans un univers de pensée spécifique par rapport au reste de l'humanité. Bien sûr, ensuite, il pourra communiquer ce qu'il dit, mais il ne le communique authentiquement que s'il le dit comme il l'a reçu, c'est-à-dire procédant d'une révélation extérieure à la nature humaine. Je veux dire que d'emblée, on se trouve être situé dans un monde où la vérité ne peut être cohérente que si elle est connue comme communication d'une transcendance, et que tous les discours immanentéistes de la pensée juive sont d'emblée inauthentiques. Je m'excuse d'employer des termes aussi carrés, enfin aussi schématiques, c'est le sujet qui m'y oblige. Bien entendu, tout cela doit être nuancé, mais ce que je voulais dire essentiellement, c'est qu'on ne peut pas parler d'un tel univers intellectuel dès que l'on a cité les catégories de base, création, révélation, rédemption, on ne peut pas en parler par façon de parler. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire là? On ne peut pas en parler comme si l'on ne prenait pas au sérieux les catégories de base dont on parle. Et par conséquent, d'emblée, nous sommes renvoyés à une spécificité radicale de la pensée juive en tant que telle. Elle ne parle pas de l'homme comme les autres hommes parlent de l'homme, parce qu'elle en parle au nom d'une information de vérité qui lui vient de l'extérieur de la nature humaine elle-même et qui n'a pas du tout été produite par la réflexion humaine réfléchissant sur elle-même, ce qui est le cas de la philosophie. Et le premier indice que nous avons, c'est la première notion du discours biblique, c'est-à-dire la notion de création. Je reprends brièvement le raisonnement, peut-être un peu sous une autre forme. Ou bien la pensée joue avec elle-même en disant qu'elle sait que le monde a été créé, que c'est une façon de parler, et c'est là que nous trouvons le principe de l'acte de foi, non encore élucidé du point de vue intellectuel et théorique, ou bien elle prend ça au sérieux, alors cela veut dire qu'elle a reçu l'information qu'elle-même a été créée, information qu'elle ne peut pas penser par elle-même, sous peine de sophisme, et par conséquent c'est d'emblée là que nous nous trouvons, avec ce phénomène culturel précis, dans une catégorie spécifique de la pensée humaine. Et est-ce que c'est suffisamment clair? Votre silence m'impressionne. Bon, ça va mieux. Alors, il est bien évident, je voudrais juste ajouter un petit liste proprement dit. Mais je vais pas vous mettre effectivement de plein fouet, c'est-à-dire panier mais panier, face à face, qu'il faut rencontrer ce problème de la spécificité de la pensée juive. Ou bien, on n'y croit pas, en réalité, et simplement on essaye de trouver un style à l'indice folklorique de ce qu'est la pensée en général pour la formuler à la juive, mais alors c'est pas sérieux du tout, c'est de la culture, c'est pas de la pensée, c'est-à-dire que la culture c'est pas sérieux, en fait c'est de la distraction, ce n'est pas de la pensée proprement dite. Ou bien on prend les catégories au sérieux, alors on est obligé d'admettre que ce qui caractérise la spécificité de la c'est qu'elle parle d'une pensée qui n'est pas humaine. Et voilà le premier postulat. Et le premier indice qui n'était pas humaine à l'origine, puisque l'Oba Shamaï Mehi maintenant, mais que Femina Shamaï. Et il faut bien savoir que ce n'est que dans la culture profane que l'on dit que, en langage de culture profane, que l'on dit qu'il s'agit d'un acte de foi. Pour ceux qui, si j'ose dire, pour ceux qui sont dans le coup de cette pensée spécifique, c'est autre chose, c'est une connaissance, mais qui ne vient pas de la réflexion philosophique habituelle. Voilà ce que je voulais éclairer. Et ensuite, enfin, nous nous renseignerons dans l'analyse même de la catégorie en question. Alors, on va procéder, si vous voulez, lentement, mais je voudrais bien être certain que les choses soient prises au sérieux. C'est vraiment un problème difficile, mais pour le débroussailler, il faut distinguer, comme j'ai essayé de dire tout à l'heure, le point de vue philosophique, c'est-à-dire des réflexions, et elles sont parfois très, très fécondes, de la manière dont chacun comprend la question qu'il se pose lorsqu'il se pose une question, le point de vue exégétique, qu'est-ce que l'on dit, ceux qui ont dit et qui ont écrit, et puis d'autre part, le point de vue de la compréhension. Mais d'emblée, s'il y a une spécificité, elle commence là. Et c'est pourquoi je vous disais que nous sommes très gênés d'être obligés dans la culture contemporaine d'employer simultanément ces trois points de vue. Ça gêne, ça brouille tout, c'est une espèce de chaos. Nous parlions comme si c'était à la fois un langage de l'immanentéisme et de la transcendance, comme si c'était à la fois un langage de l'exégèse, on y croit, on n'y croit pas, et comme si c'était un langage de la sagesse, on comprend ou on ne comprend pas. Et j'arriverai, j'espère, très rapidement à vous désigner le fait qu'effectivement, la pensée juive, dans ce qu'elle a de spécifique, est radicalement non philosophique, quels que soient les préalables de nature philosophique dont chacun doit disposer pour s'approcher des contenus de cette spécificité. Bien. Et vous aviez une question, et puis j'aborde ensuite la question. Pas dans les pensées non juives la catégorie de création. Par conséquent, lorsque les pensées non juives se formulent dans un langage immanentéiste, elles en ont le droit. Parce que c'est cela la pensée humaine. Naturellement, elle est immanente à elle-même et ne peut pas prendre au sérieux l'idée qu'elle aurait été créée. Ça contredit l'expérience de la pensée humaine pour elle-même. Ça veut dire, lorsque la pensée universelle, telle que finalement elle se traduit dans les grandes philosophies et dans les grands mysticismes, n'emploie pas la catégorie de création, elle est authentique, elle est en accord avec elle-même. Si elle emploie la catégorie de création, de deux choses d'une, ou bien elle l'a reçue par information de la pensée hébraïque, et alors elle doit lui donner le sens que la pensée hébraïque lui donne, sinon elle l'emploie par façon de parler et c'est inauthentique. Voilà ce que je voulais dire. Mais, écoutez, je vais vous dire, nous nous connaissons, si peu, je vous demanderai quand même de vous identifier. Quand vous posez une question, ça m'aiderait à... ça ne veut pas dire que je répondrai autrement, si vous n'étiez pas ce petit peu que vous êtes, mais ça m'aiderait à me situer du point de vue de l'arrière-plan des univers d'intuition spirituelle. Effectivement, j'enchaînerai sur ce premier point. C'est d'abord l'exégèse même qui nous en raconte. Donc, d'abord le point de vue philosophique, gardons l'ordre. Du point de vue philosophique, cette pensée... pour toutes les philosophies, pour toutes les écoles philosophiques, cette pensée que la création, que le monde a été créé, que c'est sérieux, ça veut dire moi y compris, et pas seulement moi y compris, mais ma pensée y compris, eh bien, et qu'il faut prendre cela au sérieux, est contradictoire en elle-même. Et c'est pourquoi, lorsque les grandes philosophies rejettent l'idée proprement hébraïque du Dieu créateur, et vous avez vu que je n'ai pas cité la notion de Dieu comme spécifique de la pensée hébraïque. Elle n'est pas spécifique de la pensée hébraïque, la notion de Dieu. Mais la notion du Dieu créateur, en prenant la catégorie création en sérieux, est spécifique de la pensée hébraïque. Eh bien, lorsque les philosophies rejettent cette notion, il y a des raisons philosophiques pour cela. Et lorsque nous nous situons à l'intérieur de l'immanentéisme de la pensée humaine par rapport à elle-même, donc à l'intérieur des postulats de la pensée philosophique, du connais-toi toi-même, ça veut dire connais-toi par toi-même, eh bien, elle est contradictoire. Et je vous donnerai une illustration de cela. La pensée philosophique ne peut pas comprendre comment il serait possible de penser qu'un Dieu a créé le monde, étant donné ce que le monde est. C'est une idée contradictoire avec ce que le monde est. Si dans l'idée de Dieu, il y a la perfection absolue, étant donné que le monde n'est pas la perfection absolue, l'idée de Dieu créant le monde est pour le philosophe contradictoire et impensable. Par conséquent, lorsque le philosophe dit cela ou dit qu'il y croit, c'est d'autre part, pas en tant que philosophe, c'est en tant que d'autre part, il a adopté ou par hypothèse géniale ou par information de la Bible une catégorie qui ne vient pas de la pensée humaine, mais qui est venue dans la culture humaine à travers l'histoire des Hébreux. Et voilà, si vous voulez, un exemple en ce qui concerne le niveau de la réflexion philosophique.